On l'a trouvé.
Hey, quand on s'y met, même si on est 4 sur 10, hein? Quand on décide de réparer un téléphone, là...
Non, chose certaine, on n'abandonne pas, nous autres. Non,
on n'a pas abandonné. On vient d'avoir l'excellente chronique de Marc-André Leclerc que j'adore. C'est toujours très précis, ses points de vue. Beaucoup de choses, évidemment, là, dans l'actualité, en lien là, avec le discours de Donald Trump. Un excellent résumé, une fois de plus, de Marc-André Leclerc. Puis, on va l'avoir avec nous lundi prochain là, pour... La course à la chefferie qui sera terminée là, du côté du Parti libéral canadien.
Absolument. On va jaser un peu plus du côté économique de la chose, de tout ce qui s'est déroulé hier et continue aujourd'hui avec Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, bon matin.
Bon matin, bonjour.
Ah, que je suis content de t'entendre, cher ami. Merci d'être là.
C'est un plaisir.
On ne pouvait pas passer à côté, il fallait se parler ce matin. Je ne suis pas le spécialiste ou l'analyste que tu es, fait que moi je regarde ça, je regarde ce qui se passe, tarif contre tarif, on avance, on recule. Je suis un peu mêlé dans toute cette histoire-là. Toi comme analyste, quand tu suis ce qui s'est passé hier, des derniers jours, ce qui se passe et qui va se passer aujourd'hui, est-ce que ça t'excite ou ça t'angoisse?
Je m'ennuie pas. Je vais y aller comme ça. Je m'ennuie pas. Ça a quand même pas de bon sens, là. Cinq minutes avant d'embarquer en onde, je regardais mon La Presse pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de discussion puis de baisse de tarifs parce que on le sait jamais à la prochaine heure qu'est-ce qui va se passer, là. C'est de, what a time to be alive, comme on dit en français.
Hey, Gabriel, là, 25% de tarifs. Je parlais avec des entrepreneurs de l'acier qui disent le 12 mars, on aura peut-être un 20 % de plus. Donald Trump dit que c'est 10 % sur l'énergie. Puis là, hier, il dit le 2 avril, on va lancer des tarifs réciproques. Démêle-nous là-dedans, parce que moi, je suis un commun des mortels, puis je suis complètement abasourdi par tous ces chiffres-là.
Oui. Bien, d'abord, à l'heure où on se parle, on a 25 % de tarifs. En fait, il y a 25 % de tarifs américains sur l'ensemble des biens canadiens, à l'exception du pétrole et du gaz. Et de certains minéraux critiques là, de ma compréhension. Donc, ça reste qu'on est environ à 25% touché. Maintenant, tu l'as bien dit, le 12 mars, il pourrait y avoir une augmentation de 25% sur certains produits comme l'acier et l'aluminium. Si ça se concrétise et que c'est cumulatif, on parle quand même de tarifs de 50% sur l'aluminium québécois. Par la suite, effectivement, Donald Trump a dit, si vous arrivez et vous remettez des tarifs de rétorsion, ce qu'il faut dire quand même, le Canada a commencé à faire sur plusieurs produits, on aurait un autre 25% sur l'ensemble des produits canadiens. Il faut aussi dire que le Canada aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a déjà mis 25% sur l'équivalent d'un peu plus de 30 milliards en valeur de produits américains. Donc, on a répondu aux tarifs de Donald Trump. On veut également d'ici trois semaines, en fait, d'environ trois semaines, ajouter un 25% sur un équivalent de plus de 100 milliards de dollars de produits importés des États-Unis au Canada. Donc, ça va faire vraiment une réponse qui va faire mal aux consommateurs, mais c'est là où on en est. Par contre, hier soir, je ne sais pas si vous avez vu, mais le secrétaire au commerce américain a dit qu'il pourrait y avoir une entente, une diminution du taux des tarifs entre Donald Trump et Justin Trudeau. Donc, ça reste à voir aujourd'hui et demain si ça se concrétise. Mais encore une fois, c'est très difficile de tout démêler avec l'ensemble de l'information qu'on a dans les médias.
Bien, justement, Gabriel, on a eu différentes discussions ici à l'émission, des discussions pour et contre les contre-tarifs canadiens. Comment tu vois ça, cette stratégie-là de contre-tarifs?
Je la vois d'un très mauvais œil. Parce que, vous voyez, les gouvernements, que ce soit Justin Trudeau, les gouvernements provinciaux comme François Legault, même Pierre Poilievre, expliquent très bien l'impact des tarifs douaniers américains. Concrètement, c'est une taxe à la consommation pour les Américains parce que les entreprises américaines vont devoir payer plus cher lorsqu'ils importent des produits canadiens. Il faut pas être bête, là. Quelqu'un qui doit payer plus cher son aluminium pour ses intrants, va vendre plus cher dans un commerce aux consommateurs et donc ça va avoir une poussée vers la hausse des prix pour le consommateur américain. Le gouvernement canadien plutôt et provincial l'explique très bien maintenant. Là où on a comme de l'amnésie sur cette question-là, c'est de dire ben maintenant que ça c'est clair, je vais répondre de la même façon. Donc, ça fait trois minutes que j'explique que c'est une mauvaise chose, mais je vais appliquer la même chose sur ma population.
Alors, ça va amener les mêmes conséquences pour nous, consommateurs canadiens et québécois.
Ben, C'est exactement ça. Si nous, on augmente le prix, par exemple, des contreplaqués, qui sont beaucoup faites aux États-Unis, un type de bois utilisé pour la fabrication de meubles. Si vous allez au IKEA, vous allez aux structures, peu importe, acheter vos meubles chez Tanguay parce que vous essayez de gagner le million, ben, écoutez, ça va coûter plus cher, le meuble, ou ça pourrait coûter plus cher. Donc, les Canadiens vont être affectés par ce type de politique publique-là. Et donc, c'est évident que ça m'apparaît une mauvaise position de dire, ben écoutez, là, vous voulez jeter les gants, là, on a vu ça dans les médias hier, Justin Trudeau qui commence à être plus agressif, puis dire non, moi aussi je vais jeter les gants. Mais quand vous regardez ça, là, c'est la population canadienne qui va se retrouver avec un œil au beurre noir, là. Donc moi, j'irai pas du tout dans cette politique économique.
Gabriel, qu'est-ce que tu penses du plan d'aide annoncé par le gouverneur provincial hier pour les entreprises? Moi, personnellement, il manque de mesures fiscales, pas de diminution d'impôts, pas de diminution de taxes, puis il manque le retrait de barrière interprovinciale. Es-tu d'accord avec moi?
Ah ben là, on est complètement dans la même équipe, là, mon cher, parce que quand on regarde cette annonce-là, de dire là, on va créer un programme qui s'appelle Frontières, dans une conférence de presse aux airs de la pandémie, vous expliquer qu'on est là pour vous, puis que le sauveur avec la bobette de Superman, c'est le gouvernement, le groupe. Je me dis, attendez un petit peu, là, parce que je comprends que ça peut faire mal, il va y encore avoir des discussions, mais de commencer tout de suite en disant, on peut faire des prêts jusqu'à 50 millions de dollars, c'est parce que ça peut s'accumuler vite, ça. Ça va tomber sur le fardeau des contribuables. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que c'est d'aller trop vite. Encore une fois, je pense que, en fait, j'aurais préféré voir un gouvernement du Québec dire, bon, on va réduire la charge fiscale sur les entreprises. Comme ça, on va s'assurer que les entrepreneurs d'ici vont garder plus d'argent dans leur poche. Ça va leur permettre de souffler dans un contexte d'incertitude économique. J'aurais davantage préféré ça. Ensuite de ça, ça me paraît évident de dire, on va prendre une position de leadership pour réduire les barrières au commerce interprovincial. On en parle depuis un bout. Le gouvernement a dit que c'était quelque chose d'intéressant, mais ça tarde à se concrétiser. Pendant qu'on entend des « oui, on va continuer de travailler sur la question », ça avance par le ministre délégué à l'économie au Québec, Christopher Skeet. Même tout récemment, François Legault a dit que c'était une bonne approche. En réalité, quand on regarde concrètement les chiffres, aucune barrière au commerce interprovincial n'a été abolie par le Québec, malgré le discours politique. Mais pendant ce temps-là, on a la Colombie-Britannique qui a retiré deux barrières, ce qui est une bonne chose. Évidemment, c'est un pas dans la bonne direction, mais ça reste qu'on voit qu'il y a une volonté politique qui se matérialise dans des gestes concrets. Et en parallèle à ça, on voit un premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui a déposé un projet de loi la semaine dernière, qui dit à toute fin pratique que chaque autre province qui dépose un projet de loi similaire va voir les entreprises de sa province. Donc, par exemple, le Québec, si on décidait d'avoir vraiment une volonté politique puis déposer le même projet de loi que celui de la Nouvelle-Écosse, concrètement, les entreprises québécoises seraient considérées comme des entreprises de la Nouvelle-Écosse. Donc, on abolit l'ensemble des barrières au commerce interprovincial, on assure une harmonisation des normes et donc par nature, on vient complètement détruire les barrières avec cette province-là, qui me semble être tout à fait judicieux comme approche. Maintenant, il va falloir voir du leadership politique au Québec, ce qui tarde.
Tu viens me chercher avec ce que tu viens de dire là, Gabriel, parce que j'allais justement parler du sujet chaud qui est du dernier mois de briser les barrières entre les provinces. Puis moi, je me suis dit, bon, es-tu juste en train de crier haut et fort qu'il faut faire ça, ou est-ce qu'il y a du concret? Ce que tu es en train de nous dire ce matin, c'est qu'il y a du concret dans ce sens-là.
Bien, il y a du concret avec certaines provinces, okay, et au fédéral. Le fédéral nous a dit, on va réduire la moitié de nos barrières, c'est une bonne chose. La Nouvelle-Écosse a dit, moi, j'enlève toutes mes barrières pour chaque province qui accepte d'enlever toutes les barrières avec nous-mêmes, avec la Nouvelle-Écosse. Je pense que c'est quand même intéressant comme approche, ça mérite d'être entendu. On a la Colombie-Britannique qui a retiré des barrières au commerce interprovincial dans la dernière semaine. Le Québec, il n'y a rien qui se passe. Hein, je le rappelle, il faut quand même dire que le Québec est la province avec le plus de barrières au commerce interprovincial. On entend parfois dans l'espace public et de façon relativement gênée, le gouvernement, en fait, de nous dire, ben, vous savez quoi, c'est important, on travaille, mais on ne voit pas d'action. Et je pense que c'est là que c'est important pour l'auditeur, c'est de vraiment faire la différence entre le discours politique et les actions concrètes qui se matérialisent ou non. Parce que c'est facile de dire qu'on continue, qu'on est proactif En réalité, quand on regarde les chiffres et on analyse la réalité, on l'est pas du tout au Québec sur la question des barrières au commerce interprovincial. Mais pourquoi s'attaquer aux barrières au commerce interprovincial? Parce que si on n'a plus de barrières au commerce interprovincial, certains professeurs ont fait des analyses plutôt économétriques et ont pu démontrer que sans ces barrières-là, on pourrait augmenter la taille du PIB de 200 milliards de dollars. Ça, quand on regarde par personne, c'est entre 2 et 5 000 dollars par Canadien. C'est tout à fait important. C'est une augmentation de la qualité de vie, de la productivité. Bref, c'est non négligeable dans un contexte en ce moment où c'est plus juste des menaces, là. On a un tarif douanier avec notre plus grand partenaire commercial, là où on envoie 77% des exportations du Canada. Il faut bouger, là. Il faut bouger, puis c'est pas en donnant une taxe à la consommation à la population canadienne qu'on bouge. Et en s'assurant d'avoir une meilleure économie intégrée au Canada.
En terminant, Gabriel, il y a une idée qui revient beaucoup dans les dernières semaines, puis on va dire, hey, ça va nous permettre de se protéger un peu de la menace Trump, puis ça a été ramené aussi par François Legault hier, c'est d'accélérer les travaux chez Hydro-Québec, d'accélérer les travaux pour ce qui est des infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les routes, transports collectifs, traitement de l'eau. À première vue, en effet, ça a l'air de quelque chose de super logique, de super brillant, puis ça va garder des emplois, ça va faire rouler l'économie. À quel point c'est, entre guillemets, une solution miracle ou pas tant que ça?
Moi, personnellement, c'est pas une solution miracle du tout. C'est une approche en économie qu'on appelle l'approche keynésienne. On va dépenser énormément d'argent parce que l'État serait en quelque sorte le sauveur. Je pense davantage qu'au Québec, à l'heure où on se parle, ce qui retient le capital privé d'être investi puis de créer des emplois, c'est un cadre réglementaire beaucoup trop strict, que ce soit au niveau syndical où on a une couverture syndicale tellement élevée, on a des lois du travail qui avantagent beaucoup plus les syndicats, on a une pression fiscale, notamment au niveau de la taxe sur la masse salariale, trop élevée au Québec par rapport à toutes les autres provinces. On a un BAT qui vient freiner des projets. Bref, on n'a pas un cadre réglementaire et fiscal intéressant au Québec. Et donc, c'est sûr que c'est plus difficile d'attirer des grands investissements. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se dire, au Québec, on a fait des erreurs dans le passé en matière d'infrastructure énergétique, par exemple. Puis là, c'est peut-être que c'est pas populaire pour tout le monde, mais la question, par exemple, d'énergie, la question de GNL Québec, pour moi, aurait été des exemples qui auraient permis de stimuler l'économie. Et dans cette perspective-là, j'espère davantage que c'est le capital privé qui prend les propres risques plutôt qu'un gouvernement qui dit, je vais prendre l'argent de la population, puis je vais créer des emplois en transférant le risque à toute fin pratique sur la population. Donc ça, je pense pas que c'est la bienvenue. J'espère davantage voir une réforme fiscale et réglementaire pour rendre le Québec attirant pour les capitaux privés et assurer une prospérité ici.
Gabriel Giguère est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Là, toujours un plaisir.
Ben, c'est un plaisir de partager. Je vous souhaite une belle journée, messieurs.
À bientôt.
Salut, Gabriel.
Gabriel Giguère, si ça, dans la dernière demi-heure, c'était pas un one-two punch solide sur le sujet de la guerre économique, discours aussi de Donald Trump devant le Congrès, tout ce qui s'est passé hier dans l'actualité, là, en tout cas... Ouf, Marc-André Leclerc et Gabriel Giguère.
Ben c'est ça exactement. Puis on a vu du côté de Marc-André Leclerc plus le côté politique, le côté négociation, comment qu'on va réussir à faire bien paraître un Donald Trump en réussissant à diminuer des tarifs qui vont nous être impactés. Et surtout, comment faire pour négocier avec un Donald Trump qui se tourne de plus en plus vers des régimes autoritaires et non pas démocratiques. Puis avec Gabriel Giguère, on a bien senti justement qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire au Québec. Il y a eu un programme d'aide d'annoncé hier, plusieurs millions de dollars offerts aux entreprises. C'est bon, comme François Vincent nous l'a dit de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, pour les moyennes et grandes entreprises, ça ne l'est pas pour les petites entreprises qui constituent 95% de nos entreprises. Alors, ça prendrait justement une diminution de la fiscalité des entreprises au Québec, mais on n'est pas prêt à le faire à l'heure actuelle, comme on n'est pas prêt à défaire toutes ces barrières commerciales interprovinciales.
On va faire une courte pause à Rage Against le matin. Il est 8h06 en ce mercredi matin, 5 mars. Ensuite, entre autres, dans la prochaine heure, une jasette avec Marc Rangé, qui est notre spécialiste en situation syndicale. On va parler de l'entente qui a été acceptée par l'Association des pompiers professionnels de Québec. Et est-ce que ça met de la pression sur les discussions avec les cols bleus? Et il y a avertissement de pluie pour cet après-midi jusqu'à demain soir. Je vous donne les détails.
On s'arrête.